Thé, qui est bien connu dans l'épître aux Hébreux, c'est un peu de fil conducteur de ce que j'avais à cœur de vous apporter aujourd'hui. C'est par la foi que nous comprenons que le monde a été créé par la parole de Dieu. Donc c'est par la foi que nous comprenons que le monde a été créé par la parole de Dieu. Dit autrement, c'est par une révélation divine que nous comprenons que le monde a été créé par la parole de Dieu. Et là, je vous donne un témoignage personnel, pour ceux qui ne l'ont pas entendu. Lors de ma conversion, donc en cette année-là, j'ai été saisi, retourné par la puissance créatrice de notre Dieu, un dimanche matin, c'était en mars, je me souviens, et je me suis dit, donc c'était il y a déjà 33 ans, et je me suis dit, Dieu a créé le monde. Qui suis-je pour lui résister, ne pas venir à lui l'aimer? Il est le Créateur, il sera aussi mon Sauveur. C'est ainsi qu'il s'est révélé à moi. C'était le début de mon cheminement. Je n'avais pas encore les éléments ensuite qui sont bien ajoutés pour développer ce tilt initial. Par la foi, j'ai compris que le monde avait été créé par la parole de Dieu. Moi qui me disais athée. Comme Job, je pouvais dire à ce moment-là, maintenant mon œil te voit par la foi. Intuitivement, j'ai balbutié un oui de la foi timide, maladroit, exalté en la puissance divine, créatrice et salvatrice. Alors c'est sûr que sans la foi, on peut seulement avoir entendu parler de lui, se poser beaucoup de questions sur le cosmos. Hein. Quelqu'un nous rappelait ce matin dans une prière que on ne cesse d'en découvrir chaque. J'ai presque envie de dire chaque jour, allez, chaque semaine, sans exagérer, une nouvelle étoile, une nouvelle galaxie. L'univers, on repousse sans arrêt, scientifiquement, les limites de son origine, de ses fins ultimes, bref. Mais ce domaine-là, c'est pas celui-là qui m'intéresse, c'est celui de la science. C'est celui-là dont je viens de faire part. C'est le domaine qui m'intéresse, c'est celui de la foi. Et c'est vraiment une toute autre approche que l'approche scientifique est une toute autre approche que l'approche théologique, l'approche religieuse, si je puis dire, que l'approche chrétienne en tout cas. L'œuvre de création qu'on a chantée ce matin, qu'on a entendue ce matin, tout comme le mystère de la rédemption, Dieu nous rachète, on l'a encore dit ce matin, nous rachète du péché, du mal, ces mystères ne peuvent être perçus que par la foi. C'est en tout cas, c'est ma profession de foi et je l'espère la vôtre ce matin. Mais une foi qui résonne, c'est pas une foi dans le vide. Et je l'espère une foi raisonnable. Ce que Anselme, un théologien du Moyen Âge, appelait une foi qui cherche à connaître en questionnant. Donc nous posons donc quatre questions faussement simples. La première, donc je disais une foi qui cherche à connaître. Qui crée? Qui a créé? Alors c'est pareil, évident, vous me direz, c'est Dieu. Tu enfonces les portes ouvertes, Jean-Marc, voyons. oui, mais enfin, quoique. Alors, c'est l'ensemble de la Trinité qui est impliqué dans la création de l'univers. On l'a un peu vu dans les textes ce matin. Le Père, alors je vous mets juste les références pour ceux qui voudraient, qui aiment bien avoir les références, comme ça c'est fait. Je ne m'interromps pas à chaque fois par des références bibliques. Le Père est l'auteur de toutes choses. Au commencement, Dieu créa. Jusque-là, il n'y a pas de souci, c'est clair. Il est le principal agent initiateur de l'acte de création, mais le Fils et le Saint-Esprit ont été aussi actifs. Jésus-Christ, il est aussi décrit comme celui par qui la création s'est produite. Le prologue de l'évangile de Jean fait écho à Genèse, chapitre 1. Au commencement, la parole était Dieu. et la parole étaient avec Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Jean dit ça, mais Paul aussi dit la même chose. Paul parle aussi de la participation du Fils à la création originelle. Il affirme qu'il y a un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui tout existe et par qui nous sommes, et que par lui, tout a été créé. Vous voyez, par l'insistance de ce petit mot. C'est par lui que Dieu a créé l'univers. En tant que Fils premier-né, il est en train de ramener toutes choses sous le gouvernement, sous son gouvernement, même si on ne le voit pas encore instantanément aujourd'hui. J'en conviens comme vous. Le Père, le Fils, participent à l'œuvre trinitaire, mais également l'Esprit Saint. Alors l'Esprit Saint qu'on peut traduire, alors je ne suis pas spécialiste de l'hébreu, je ne parle pas, roar, quelque chose comme ça, le mot en hébreu, qu'on peut traduire souffle, qu'on peut traduire vent, et cet Esprit Saint est également à l'œuvre. Il est dit dans le texte de la Genèse, au verset 2, il planait au-dessus des eaux primaires, des eaux originelles, ce qui implique une fonction de protection, de maintien, de gouvernement. Oui, dit Job un peu plus loin, c'est l'Esprit de Dieu qui m'a formé, c'est le souffle du Tout-Puissant qui fait vivre. Il faut quand même reconnaître que l'œuvre de l'Esprit-Saint dans la création, ces mentions sont rares dans la Bible. Elles apparaissent davantage dans l'œuvre pour l'Église, dans l'œuvre au quotidien, dans le Nouveau Testament. Alors, ensemble, donc j'aime bien ce mot, ensemble, Père, Fils et Esprit, ont créé. Il n'y a pas un qui décide, l'autre qui agit et l'autre qui regarde. Il n'est plus question non plus d'une division hiérarchique ou hebdomadaire du travail. Non, il n'y a pas quelqu'un qui a fait le premier jour de 3h, l'autre le 5e, puis après on se débrouille pour le 2 et le 4, par exemple. Non, au contraire, toute la création est l'œuvre symbiotique, différenciée en Dieu, mais unie et unique. Les trois personnes ont conçu, trois personnes divines de la divinité ont conçu, ordonné, agi en commun du début à la fin. La simplicité des textes que nous avons lus ce matin laisse entrevoir une parole créatrice unique. Dieu dit que, et la chose advient. Vous savez, ça, je crois qu'en linguistique, on appelle ça, Catherine, la parole performative. Hein, c'est comme ça qu'on dit. Vous savez, comme quand le président il a déclaré ouvert les Jeux Olympiques. Vous vous souvenez de ça? Ou le président du CIO, je ne sais plus, peu importe. Ben ça, ils sont ouverts. Et pourtant, il y avait déjà des épreuves qui apparaissaient avant. Sauf que là, Dieu dit et les choses existent réellement. Alors qu'avant, ben Dieu, on en parlera après. On parlera de ça après. Dieu est lui-même, il ne peut être créé, mais il crée. C'est un Dieu personnel et bienveillant qui triomphe du chaos initial, d'un abîme recouvert de ténèbres pour créer un monde habitable et des habitants. Même si on parle de réchauffement climatique, même si on parle de dérèglement climatique, le monde reste quand même habitable. Dieu crée et aujourd'hui il maintient l'univers. C'est pas si évident pour tout le monde, hein, parce que Dieu ne serait pas parti avec la clé. Non. Dieu est droit, il est fidèle et il est juste à l'égard de ce qui est bon, c'est-à-dire à l'égard de ce que lui-même a créé. Donc, application, petite pause d'application. Comment je pourrais dire ça? Qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? Quand j'ai réfléchi à l'œuvre trinitaire, je me suis dit, en quoi ça peut nous inspirer au quotidien? Puis je me suis dit, s'il y a dès l'origine une unité bienveillante de projet et d'action trinitaire, parce qu'ils sont en communion. Alors rappelons-nous, nous dont le texte biblique dans Éphésiens nous dit que nous avons été appelés, élus avant la création du monde pour l'union, pour la communion, pour l'action commune bienveillante à l'image du Dieu trinitaire. Deuxième question que je me suis posée, à propos de la création, quoi? Qu'est-ce qu'il a créé ou à partir de quoi? Moi, si je veux, je suis pas maçon, mais je suppose qu'un maçon, il lui faut un peu de matériaux, il faut du béton. S'il n'a pas un peu de matériaux, il ne fait rien. Dieu, c'est un peu différent. Et même complètement. Dieu crée tout à partir de rien. dit autrement, sans matière préexistante. Il crée l'univers visible, les animaux, les plantes, vous et moi, par exemple, l'univers visible, et puis l'univers invisible, les anges et d'autres sortes d'êtres célestes. Si parmi nous certains les ont vus, c'est possible, mais ça reste en général quand même relativement peu visible. Il a donc créé le visible, il a créé l'invisible, il a créé Adam et Ève, et puis il a créé le temps. Il crée le temps. Puisqu'on parle de jours de création, le temps se déploie de manière complètement inimaginable. En fait, il le fait, les théologiens ils disent ex nihilo. Ça veut dire en gros, avant il n'y avait rien, il s'est servi de rien. Alors cette formule n'est pas employée telle quelle dans le texte biblique que nous avons lu, mais elle est déduite, suggérée du fait qu'il y avait un terme, je crois qu'en hébreu on dit tohu bohu. Enfin, en français on dit tohu bohu, ça ne se prononce pas comme ça en hébreu, je crois, mais on dit le tohu bohu. Exemple, quand j'avais 15 ans, dans ma chambre, c'était le tohu bohu. Par exemple, pas informe et vide. Mais quand même le tohu bohu. Là, apparemment, dans le texte biblique, c'était vraiment le tohu bohu informe et vide, donc inimaginable. Et de ce tohu bohu informe et vide cosmique surgit par sa parole un bel ordonnancement voulu par Dieu. Et le texte rythme son déploiement spatio-temporel, marqué par les sept jours, les sept bénédictions. Dieu dit c'est bon, à la fin il dit c'est très bon. Donc les sept regards d'approbation finalement. Et puis de maintien de ce que Dieu a fait, puisque finalement tout cela n'a pas disparu. Alors cette idée de création, on va dire ex nihilo pour faire rapide, élimine deux tendances. La première c'est la matière éternelle. Les Grecs à l'époque, il y a 2000 ans, encore aujourd'hui, il y a une tendance à dire que finalement la matière a toujours existé. Eh bien non, il y a eu un commencement. Et Genèse 1, verset 1, indique qu'il y a eu un début. La matière n'est pas éternelle. Bon. Et puis un deuxième point, qu'on appelle le dualisme dans l'univers. Bon, une autre forme d'existence ou de force s'opposerait à Dieu et échapperait à son contrôle. Dans la guerre des étoiles, elle est nommée la force. Ça vous parle, peut-être ? Est-ce que la force est vraiment éternelle ? En tout cas, dans ce film, elle est nommée comme puissance universelle, intemporelle, donc éternelle, qui sous-tend, qui habite et qui traverse l'univers, et puis chacun des êtres, certains élus l'ont, d'autres ne l'ont pas, enfin bref. Mais ça, c'est de la science-fiction. Ce n'est pas ce que dit le texte. Dieu a tout créé dès le commencement, et l'univers n'est pas un petit peu mauvais en soi, comme le sous-tend l'idée d'une matière éternelle qui lutterait contre Dieu. Non, tout est bon. Rien n'est à jeter dans la création de notre Dieu. Rien n'a été créé en dehors de ce que lui a fait. La création, c'est bien le cadre de vie tel que nous la connaissons, et elle est posée en six jours. Le septième, Dieu se repose. Alors nous, là, dans tout ça, nous les hommes, nous les femmes, il est juste de rappeler que l'homme est une création seconde et qu'il n'est pas forcément le sommet de la création. Donc, une création seconde, ça veut dire quoi ? Pour trois raisons que j'affiche ici. C'est une créature du sixième jour. On est créé le même jour que les animaux terrestres, précisons-le. Un seul temps du récit, donc le sixième jour, décrit la création de l'animal et de l'homme. Alors il faut bien préciser que c'est quand même nouveau à l'époque, parce que quand les anciens écrivaient des textes à la même époque que la Bible, enfin que la Genèse a été écrite, en général, on ne séparait pas le temps de la création de l'homme et de l'animal. Là, la Bible sépare d'abord les animaux terrestres et le sixième jour ensuite création de l'homme. Mais peut-être le plus important à retenir pour moi, c'est qu'il a employé de la matière préexistante pour le créer, de la poussière du sol, dans laquelle Dieu insuffle la vie de Dieu. Alors, on est une créature au statut un peu hybride, un peu particulier. On n'est pas d'origine divine voyez, encore hier, j'ai reçu un WhatsApp, je crois, et puis qui dit je suis fait d'or pur. Ok, d'accord. Donc, sous-entendu, je suis divin. Quelque chose comme ça, quoi. Ça avait cet esprit-là. Non. Nous ne sommes pas distincts dans ce sens-là du reste de la création, mes frères et sœurs. L'humanité est tirée de la boue, de l'humus. Ça l'a donné le mot humilité. Et c'est là d'où vient Adam, le glaiseux. On est fait de glaise. Ça, c'est la première chose. Et puis, on n'est pas forcément le point culminant de la révélation des origines. Ça, c'est le deuxième point sur l'homme. Notre création n'est pas le point dominant de la révélation de Dieu. Ce point se situe plutôt un peu plus loin, juste après, lors de la communion sabbatique avec toute la création. Au début du chapitre 2, c'est la conclusion, quoi, qui nous a été lue et que je relis. Le septième jour, toute l'œuvre que Dieu avait cessée était achevée et il se reposa. Il cessa, c'est ce qui a donné sabbat, c'est le même mot, je crois. Il se reposa de toute l'œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour, car en ce jour, Dieu se repose de toute l'œuvre qu'il avait créée. Et puis un troisième point qui me paraît important à noter, où porte l'accent de la création de l'homme ? Est-ce qu'il y a une bénédiction spéciale dans le texte de la Genèse où il est dit que l'homme dominera, dominé, pris dans un sens fort? La nuance n'est pas aussi évidente qu'il nous est enseigné si souvent. Souvent, dominer, c'est opprimer. Souvent, c'est détruire. C'est réduire en miettes. J'exagère un peu, mais c'est souvent un peu ça qu'on a en tête. Je pousse peut-être le bouchon un peu loin, mais il y a quelque chose un peu d'ordre de la brutalité, surtout actuellement, qu'on sous-entend. Bien sûr qu'il y a ce terme est là. Mais est-ce que la pointe du texte porte là-dessus? Dieu accorde, alors pour nuancer un peu, Dieu accorde la nourriture aussi bien, au verset 29 et 30, il nous est dit que Dieu accorde la nourriture aussi bien aux uns qu'aux autres, aux animaux qu'aux êtres humains. Dominer est une responsabilité peut-être seconde. La primauté, pour moi, la pointe du texte, elle vient du fait que nous ne sommes pas des animaux, parce que nous sommes créés en image de Dieu. Et que cette primauté, elle est réservée à l'homme. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez comme ressemblance entre être humain et animal. La seule différence essentielle, pour moi, c'est qu'on est créé en image de Dieu, c'est-à-dire comme ses représentants. Les primates ne sont pas les représentants de Dieu sur la terre. Vous et moi, si. En résumé, l'être humain est présenté comme une créature du sixième jour, comme les animaux, avant le repos, le sabbat du septième jour. La bénédiction qui l'accompagne est attachée à son statut d'image de Dieu, plus que l'ordre de domination. Alors, qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? Moi, j'ai noté trois choses. On est fait de terre, d'humus. Donc, humilité devant notre origine. Nous ne sommes pas d'étincelles divines. Deuxièmement, reconnaissance pour le statut d'image de Dieu, de représentant. Merci, notre Seigneur. Mais également, responsabilité devant notre mandat créationnel. Prendre soin de la nature, veiller comme un jardinier. Quand vous faites votre jardin, vous faites bien en sorte que si vous avez un jardin ou si vous avez la possibilité d'y accéder, vous faites bien en sorte d'en prendre soin. C'est la même logique qui est à l'œuvre. Troisième question, pourquoi la création? Donc ça, c'est l'avant-dernière question. Pourquoi? Pour quelle raison? Singulière ou plurielle? Est-ce que Dieu ne se suffirait pas à lui-même? Est-ce qu'il s'ennuierait? Alors, il y a deux points un petit peu techniques. Transcendance et immanence. Bon, en gros, transcendance, c'est Dieu est au-dessus. Souveraineté, complète, inaliénable, entière. En fait, rien ne l'oblige à créer, nulle nécessité de créer. Et le texte hébraïque, qui est fidèle à son économie de mots, ne nous présente pas les motivations de Dieu pour créer. Il ne dit pas pour ce qu'il s'ennuyait, parce qu'il avait besoin de nous, parce que, il ne l'explique pas. Dieu, en tout cas, n'avait pas besoin de créer l'univers. C'est la référence du livre des Actes. Il n'avait pas non plus besoin de former l'homme, comme il l'apparaît dans les mythes proche-orientaux anciens, où les dieux fatigués créent les hommes pour travailler à leur place. La contingence, c'est-à-dire le fait qu'on est des êtres humains, qu'on est liés par les choses matérielles, c'est un facteur humain selon lequel nécessité fait loi. Ben, quand il faut manger, il faut y aller, quoi. Ce n'est pas le cas de Dieu. Dieu est esprit. Rien de cela n'apparaît dans la Genèse, simplement place à un magnifique opéra ballet voltige de l'esprit de Dieu qui plane au-dessus de l'esprit primitif, de l'abîme primitif, pardon. C'est seulement par sa transcendance que Dieu exerce pleinement son libre arbitre. C'est-à-dire qu'en gros, s'il était obligé de créer, il ne serait pas libre. Et c'est par sa transcendance qu'il est souverain, qu'il peut être sans réserve le Seigneur. Alors, je reviens un peu en arrière, je vais trop vite. Heureusement, il y a l'immanence. C'est-à-dire que Dieu, il est par tous et en tous. C'est ça que ça veut dire, l'immanence. Par tous et en tous. Il n'est pas juste là-haut, au ciel, à nous surplomber. Sinon, il aurait créé le monde de façon froide, clinique, comme un horloger, un mécanicien. Vous savez, c'est ce que disait Voltaire. Hein. Il a créé l'horloge, et puis il a acheté la clé, et puis nous, on se débrouille. Non. C'est pas juste un horloger, un mécanicien ou un grand informaticien pour employer une image plus récente qui aurait tout programmé. Non. Il est attaché. Il manifeste son engagement actif dans la mesure où il est par tous, et en tous. Il est donc immanent. Toutes choses dépendent entièrement de sa puissance pour leur existence. Tout subsiste en lui, et c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Et la semaine dernière, j'ai bien aimé ce qu'avait dit Yves en lisant le psaume 139 à la présidence. Dieu nous entoure par devant, par derrière, comme il nous a été dit, comme notre Créateur et comme un ami intime. Je connais le Créateur du monde, dit ce chant. Dieu ne nous doit rien, mais vit en nous, s'engage par nous, soutient toutes choses. Quel privilège de connaître le Créateur du monde. Et enfin, pourquoi Dieu a créé ? Dans quel but ? Moi, j'ai noté au moins trois raisons. La première, nous dit la confession de Westminster, une confession du 17e, je crois, pour manifester sa gloire, sa puissance, sa sagesse et sa bonté éternelle. Nous l'avons chanté ce matin. Tu es digne, Seigneur notre Dieu, qu'on te donne gloire, honneur et puissance, car tu as créé tout ce qui existe. L'univers entier doit son existence et sa création à ta volonté. C'est ce que chantent les 24 anciens au ciel devant son trône. Et nous chanterons aussi cela, Dieu voulant, par sa grâce, quand nous le verrons. Et nous pourrons déjà le chanter maintenant. Deuxième raison, pour l'expression de notre foi à ceux à qui nous parlons de Dieu, à ceux à qui nous témoignons de notre foi. Et avant d'aller plus loin, moi, je vois des fois des choses un peu étranges. Je pense au forum des associations, j'ai déjà assisté à des trucs, choses étranges. On parle des gens du péché, de la rédemption, de Christ qui a sauvé le monde, à des gens qui ne croient même pas qu'il a créé le monde. Alors, il faut peut-être commencer, quand on parle aux gens, par la base. Il me semble, c'est par la foi que nous comprenons que le monde a été créé par la parole de Dieu. dans l'affirmation que celui qui vit éternellement a créé toutes choses ensemble, nous dit saint Augustin relayé par Pascal, il y a assez de clarté pour élire les élus et assez d'obscurité pour les humilier. Il y a assez d'obscurité pour aveugler les réprouvés, c'est-à-dire ceux qui sont rejetés, et assez de clarté pour les condamner et les rendre inexcusables. Alors les réprouvés, ceux qui n'ont pas la foi. Plus exactement. En fait, si je cite ce passage, c'est qu'il y a une certaine perversité dans le désir de vouloir connaître la nature sans chercher à connaître le créateur de la nature. Un certain contresens ressort à s'occuper de la question seconde du comment en négligeant la question essentielle du pourquoi. La célébrité de Pierre-Simon Laplace, si ça vous parle, et Dieu dans tout ça, dit à ce célèbre physicien Napoléon, et l'autre de répondre, « Sire, je n'ai pas eu besoin, dans l'élaboration de sa physique céleste, sire, je n'ai pas eu besoin de cette hypothèse. » Alors, inversement, l'admirable attraction de l'être humain vers les merveilles citées dans le récit des origines nous renvoie vers l'artiste, auteur de toutes ces œuvres d'art, de la fleur à l'étoile. Troisième raison, et c'est celle qui m'a peut-être le plus touché en cette période de Jeux Olympiques, le Créateur, et quelqu'un l'a rappelé tout à l'heure, je crois aussi dans ses prières, et le Dieu vainqueur, c'est le même. Pour l'affermissement de notre confiance en lui, c'est cette image d'un Dieu vainqueur du mal que je voudrais vous laisser. En tant que créateur du cosmos, il a triomphé dans le passé. En tant que créateur de l'histoire, il triomphe dans le présent. Et en tant que créateur des nouveaux cieux et de la nouvelle terre, il triomphera dans le futur. Heureux êtes-vous, heureux sommes-nous, si nous plaçons en ce Dieu notre confiance. Amen. Je vous invite justement à chanter un chant de victoire, le 341, Victoire au Seigneur de la vie.